Radio Silence, bonsoir. Nous sommes le 21 mai. Vous écoutez Flash sur le monde par Élise Mbok pour Radio Silence. Nous avons eu le premier tour des élections présidentielles où on nous a dit que ça devait être mieux. Bien sûr, comme on dit, les promesse n'engage que ceux qui y croient bien sûr qu'on est dans la continuité avec ce gouvernement qui a été nommé, mais oh bon, les gouvernements, ils se suivent, ils viennent, ils s'en vont, ça ce n'est plus tellement, c'est rituel. Et ce qui nous, qui intéresse toujours tout le monde, on attend toujours, c'est l'élément symbolique qui va décider de la farce ou de la réalité de la promesse annoncée. Dans ce qui a été annoncé, bon, j'entre tout de suite dans le vif du sujet, on ne va pas faire de frioriture. Hein. Bien sûr, c'est la nomination du professeur Pape Ndiaye, admiré d'ailleurs la consonance incluse dans le mot pape. Vous voyez, Pape Ndiaye, il faut déjà toujours écouter. Césaire disait d'écouter dangereusement. Monsieur Pape Ndiaye, moi j'appelle toujours papa parce que moi je suis du milieu universitaire, je suis venu ici parce que justement monsieur Macron faisait une fixation sur moi. Moi, je fais partie. Vous vous demanderez toujours d'ailleurs pourquoi elle intervient sur la campagne, pour les campagnes présidentielles de cette façon-là. Certains disent, je m'excuse, j'aurai la gorge enrouée de temps en temps, encore un palu africain, j'en parle plus. Certains disent, les gens sont entitled, c'est-à-dire ils se donnent le droit d'intervenir alors qu'ils ne sont rien. Voilà. Et moi, je dis, je ne suis rien, je suis entitled et mon carnet d'adresse, parce que nous avons tous au niveau international un carnet d'adresse, des mails qui nous arrivent, des personnalités internationales, très plus importantes d'ailleurs que M. Macron. Et donc, ils savent très bien pourquoi nous sommes entitled, peut-être vous le public, vous ne le savez pas, mais tout le monde qui fait partie de la campagne et des arcanes, plutôt dire comme cela, la campagne, ça faut qu'on intervienne. Alors, M. Macron, vous savez, c'est le petit qui est arrivé très imbu de lui-même, il ne fallait pas le contredire. Alors, moi, vous savez, le racisme, hein, c'est quelque chose, il ne faut pas voir ce que vous voyez. Alors, c'est un monsieur profondément raciste et c'est un monsieur, de toute façon, si, profondément déviant, déviant entre guillemets, je ne juge pas. Je le dis par rapport aux critères de la famille. Quand il est arrivé, la première fois, moi, j'ai dit, oh là là, gamin, ça, c'est vraiment pas d'expérience. Ensuite, venu, on ne sait d'où, pas très suspect. Et puis ensuite, on nous dit de la banque Rothschild, doublement suspect. Et puis ensuite, je vais pas dire homosexuel, mais bon, bisexuel, c'est pas la catastrophe. Mais ça, c'est toutes des choses qui étaient quand même un peu décalées par rapport à ce qu'on attend d'un représentant de la République. Bon, maintenant, nous sommes en démocratie, chacun fait ce qu'il fait, chaque pays, chaque peuple vote qui il veut. Moi, je ne suis pas là pour dire votez pas ci, votez pas ça, mais on a très bien vu que tous ces petits facteurs, vous savez, la différence est dans les détails. Ce sont ces choses-là qui font après des gouvernements traumatiques ou traumatisants et les peuples se plaignent. tout le mépris qu'on affiche envers eux. Ils se plaignent parce que le gouvernement n'est pas social, n'est pas. Oui, mais c'est des gens qui n'ont pas de sensibilité. Si vous n'avez pas de sensibilité familiale, ces choses-là, c'est pas par hasard. Vous ne pouvez pas avoir une sensibilité sociale. C'est évident. Bon. Après, on veut personnaliser les choses. Moi, je ne les ai pas personnalisées. Monsieur Macron les a personnalisées. Il est allé voir l'Opactrat 8, je vous ai raconté. Ils sont allés combiner, ils m'ont poussé dehors. Bon, ils ont cru que j'allais végéter dans la rue parce que c'est des gens qui ne croient pas à la famille. C'est des gens extrêmement méchants. Et c'est des gens qui n'acceptent pas la compétition parce qu'ils viennent, vous savez, les nouveaux arrivistes là, très genre pirates, ils n'acceptent pas la compétition, n'acceptent pas la concurrence. C'est des quasi, je ne vais pas, dictateurs, ça ne veut plus rien dire. Du coup, ils vont vous montrer ce qu'ils vont vous montrer. Donc, je devais normalement finir sous les ponts, sous le pont, quelque part, à Lyon. Sous le Rhône, dormir là-bas, et puis eux, ils allaient être contents, fêter, c'était là. Alors, ce qu'il fallait montrer aux gens, vous savez, on prend toujours un cas exemplaire pour dire, vous allez voir, on va le punir, alors la prochaine fois, vous n'oserez même pas, vous tenterez pas, il va être affamé, on va le tuer, et tout cela après tout un épisode raciste, notamment aussi. Pardon, dans les universités de France, ne me faites pas rire, on parle là de l'éducation, qui ne recrute pas, et vous êtes là à proportion. Bon, ces choses déjà dites, je ne vais plus leur dire ça, ça ne sert à rien. Mais c'est un tout qui fait qu'après, vous avez ces gens qui se disent très très grands, qui sont en fait très très petits, qui ne vivent que parce qu'ils peuvent, comme George Orwell avait dit, écraser la botte, hein, d'un militaire sur le visage de quelqu'un qu'on a humilié, qu'on a posé par terre, qu'on a poussé par terre. Monsieur Macron, c'est un gouvernement qui jette les gens à la rue, qui vous jettera dans la misère, qui vous jettera à terre. Bon, moi, heureusement, Dieu merci, ils ont cru que j'étais celle qu'ils croyaient que j'étais. Je suis revenu en Afrique et j'ai retrouvé mon village. Et dans mon village, j'ai de la terre. Je suis propriétaire terrien. Et on se perd souvent, beaucoup à l'étranger. C'est pas qu'on se perd, c'est bien d'y aller. Moi, je revendique vraiment cette culture française, cette civilisation française, parce qu'elle était, elle est, elle était, et je souhaite qu'elle continue à l'être, arrimée à la culture africaine. Pas de la façon dont elle est. Elle devrait être mieux arrimée que cela. Donc moi, ça me... Je suis ici, je vis. C'est vrai, au début, on arrive, on est un peu traumatisé parce qu'on ne s'attend pas à ce genre de combattant mineur, on s'attend à un genre de combattant majeur. Et quand on tombe sur des gens comme ça, vous savez, faites attention aux petits voyous parce que vraiment, il va vous déstabiliser. Donc, je fais partie de la campagne. Et je suis partie de la campagne en creux tout le temps, tant et si bien que la nomination de Pape Diaye, j'allais dire Diouf, c'est moi. C'est mon profil tout craché. Et pourquoi? Parce que M. Macron va toujours faire une fixation sur moi. Je vous dirai après les conséquences intellectuelles, hein, parce que moi, je n'en parle pas comme ces gens-là qui vendent, enfin, qui vendent les gens, les esclavagistes. On nous dit qu'il a fait ses études, enfin, qu'il est professeur des universités, spécialiste des questions américaines, de l'histoire américaine sociale, notamment des minorités. Oui, question l'Amérique. Évidemment, je l'ai installé au cœur de la problématique depuis que je suis allé aux États-Unis, comme jamais. Et alors, beaucoup de gens ont suivi le mouvement de l'Amérique, ont suivi mon regard. La question de la société américaine, nous, on l'a étudiée dans mon CV sous forme de la civilisation américaine. Et la question des minorités, c'est ce que j'ai fait dans mon livre, je l'ai relaté, dans le clonage institutionnel qui a été barré partout, partout, et on vit plein poil depuis le clonage institutionnel, ce qui a été parce que l'édition, c'était le domaine de Weinstein, ces grands centres concentrationnaires qui font que, vous voyez, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qu'on nous dit sur les influenceuses. Je n'étais pas du tout, voilà, j'étais pas la bonne personne qui pouvait se coucher dans sa padanée, mais on le fait, l'intellectuel vit de cela, malheureusement. C'est toujours un exil parfois, et parfois ça peut aussi ne pas en être un. Donc, mon profil tout tracé, les minorités, j'en parle, la citoyenneté en France, j'ai fait que cela. Je veux dire par là pourquoi c'est mon profil en creux. C'est parce que, honnêtement, quand on nomme un ministre de l'Éducation nationale en France, on n'a pas besoin qu'il soit spécialiste des questions sociales américaines. Je veux dire, ça n'a rien. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça? Voilà, la voiture va démarrer ici maintenant. Je suis dans un environnement absolument gangstérisé. Chaque chose que je vais faire, hein, depuis le matin jusqu'au soir, on obstrue parce que c'est l'obstruction permanente. Et c'est comme ça par tous les moyens. On va continuer parce que vous allez entendre ce que je dis. Qu'est-ce qu'il y a, où est le rapport entre le nommer un ministre de l'Éducation nationale française? Et aller voir les études qui ont été faites aux États-Unis. Où est le rapport? C'est pas du tout la même sociologie, même s'il y a des effets de comparaison. Mais non, la France a sa propre réalité. Et elle est où? On nous sort. Alors c'est là où Madame Le Pen, elle n'a pas compris non plus toute l'instrumentalisation de la diversité. Peut-être qu'elle le comprend très bien, elle veut pas le dire, au profit de la politique, comment je vais dire, la politicaillerie française, on joue, on instrumentalise la question de l'immigration d'une façon ou d'une autre. Soit on dira que Madame Le Pen et Monsieur Zemmour, je voulais dire, étaient très très durs. Soit on dira que de l'autre côté, Monsieur Macron était, se sont très gentils. Mais c'est toujours l'instrumentalisation. Peut-être les autres ne sont pas conscients de cela, mais si Madame Le Pen arrive et se met à dire oui, mais c'est de l'indigénisme, c'est du wokisme, du racialisme, oui, le wokisme, oui, c'est trop facile. Ça, c'est des concepts encore et des problématiques américaines. Ce ne sont pas vraiment des problématiques françaises. Bordel, nous faisons de l'éducation, pardon, nous faisons de l'éducation française, on va toujours recopier ailleurs, mais parce que ce qui intéresse Monsieur Macron, c'est pas la France, c'est Élise derrière, vous voyez, les nominations. Elle avait qu'à venir, bien fait pour elle, elle n'est pas venue, elle va voir ce qu'elle va voir. De toute façon, comment est-ce qu'on instrumentalise alors cette diversité, l'immigration? Je vais vous dire de deux façons. Soit on joue ce qu'on a fait là, je vous oppose pour, comme on dit, on divise pour mieux régner. Soit on joue, alors c'est ce qui est plus sûr, ce que George Orwell a dit, la question de l'humiliation. Soit on joue la question, ce qui a été fait, le Macron premier, vous vous souvenez, la petite Sénégalaise qui était venue, comme ça, qui. Avait les cheveux tout en l'air, c'était aussi un petit clone, un clone, on prend un clone, et quand on prend ce clone-là, on le, comment dire, on le monte contre l'autre, et finalement, à la fin, la pauvre, elle n'avait rien compris, on finit par humilier et elle, et la personne qu'on est censé cloner. Il y a cela, et il y a aussi, alors, puisqu'on parle de clonage, quand je suis arrivé ici au Cameroun, je vais à l'université, bien sûr, docteur. Je suis docteur en information et communication, je suis civilisationniste, dont ça déborde un peu toutes les questions dont on parle là. Quand j'arrive, je suis à l'université, la mère université, on ne cite plus tout ça, ça ne sert à rien. Et là, deux cours tout de suite après, je rencontre tous les mêmes, comment je vais dire, toutes les amères du monde. on boycotte le cours, on sabote le cours, on fait ci, on fait ci, on fait ci. Bon, ça se passe comme ça se passe, je laisse tomber, je reviens, et puis l'année d'après, c'est-à-dire, je ne sais plus, ce début cette année, on me rappelle, vous revenez, vous avez cours, ben, l'année dernière, j'ai un peu fait cours. Rebelote, ça commence à plus, j'ai dit, là, vous savez, moi, j'ai pas que ça à faire, je me retire. Et là, curieusement, il y a exactement 2 ou 3 jours, pas plus de 4. C'est curieux, hein, la concomitance. Je reçois un courrier qui me dit, il faudrait que je leur remplisse un document, je ne sais plus comment d'appeler ces documents pilotes-là, pour définir le profil de mon enseignement. Moi, j'ai défini le profil de mon enseignement. J'enseigne quoi? Je ne suis pas là pour faire du travail gratuit, pardon, docteur, machin, professeur, tout ça. En plus, la chaire, ce n'est pas ma chaire. C'est la chaire universitaire d'un professeur, qui est d'ailleurs secrétaire général du ministère de la Communication, bah, qui fasse son travail. Pourquoi c'est moi qui ferais ce travail-là? Oui, et comme par hasard, c'est toujours concomitant. Vous recevez ça, le professeur. Bah, il faut lire en creux, mais vous ne pourrez pas, parce que la politique procède comme cela d'une forme ici en France, en Afrique, on dirait sorcellerie. Et en France, je ne sais pas comment on va le dire ça, mais vraiment, c'est machiavélisme profond, parce que c'est déjà au-delà de Machiavel, et ce serait autre chose. L'immigration est instrumentalisée. La France n'a plus de spécificité éducative en tant que telle. Si elle veut aller s'inspirer de l'Amérique, alors du coup qu'elle supprime ses grandes écoles et qu'elle fasse des grandes universités, ce serait le point de départ. Et vous voyez, ça se fait pas. Mais par contre, on arrive, on vous assène les concepts comme le wokisme qui n'est rien d'autre qu'une forme de revendication de l'enseignement. De la vérité de l'histoire dans le peuplement d'une nation. Ça n'a rien à voir en France, on n'a pas ce genre de débat, quoique, mais ça ne se présente pas sous la même forme. C'est donc une instrumentalisation pathologique, hein, vraiment. Et c'est d'ailleurs curieux de constater l'autre instrumentalisation, l'autre niveau. Qui est qu'à chaque fois on fait semblant de prendre les immigrés, vous verrez, hein, soit c'est des Sénégalais, soit c'est des Marocains. Comme par hasard, moi j'avais été attaqué par des Marocains, envoyé par l'amant, je m'excuse, mais franchement, c'est des vérités de monsieur le président de la République, numéro 1, qu'on ne voit plus, qui était Marocain, mais vraiment attaqué lourdement. Pourquoi c'est toujours le Maroc et le Sénégal qui est représenté? Pourquoi? C'est ça l'intégration, c'est ça la diversité. L'école française a ses problèmes. L'école française a ses problèmes qui sont d'ailleurs toujours décrits dans ce document, dans ce livre, le clonage institutionnel, qui sont liés à la façon selon laquelle l'immigration s'est faite avec la France. Et aussi au travail, et aussi au logement, et aussi à cette catégorisation scolaire, et aussi au racisme profond. La France ne veut pas reconnaître quand même qu'elle est raciste. Faut qu'elle le reconnaisse. Pourquoi elle a honte? Et peut-être qu'elle n'est pas vraiment directement raciste. Mais les questions sont tellement mal posées et tout le monde est tellement dans la manipulation, y compris Monsieur Zemmour qui entre là-dedans comme cela. C'est dommage. Moi, j'ai voté pour Monsieur Zemmour au premier tour. Je le dis carrément parce que je n'ai pas eu de cesse d'essayer de tirer la sonnette, de lui dire attention, corrige ici, corrige par là. Enfin, corriger, je dis corrige, c'est une façon de dire, moi je suis ici, mais si on était dans le staff devant lui, je lui dirais corriger comme ça, monsieur, c'est si. Bon, il n'a pas écouté, il allait tête bêche. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a un racialisme inversé qui ne dit pas son nom. Mais franchement, je crois qu'il est temps, et c'était d'ailleurs cette émission que j'allais faire si la question de la nomination, ouf, insolite n'était pas arrivée, et encore, moi, ça ne me dérange pas qu'on le nomme. Tout le monde peut être nommé entitled. J'avais pensé, moi, que vraiment poser encore les questions aujourd'hui, il est normal de faire la critical race theory, c'est-à-dire la théorie, si vous disiez la voix, ça va être dur, hein, la maladie, la théorie, comment on peut dire ça, de retracer l'histoire de la race en Amérique. Ça, c'est un problème américain, ça c'est dû, c'est normal, c'est l'histoire, c'est l'éducation, c'est la pédagogie, c'est la République. Il est normal peut-être aussi de faire le même exercice en France, mais ça sera une autre demande et sous d'autres formes, parce que l'esclavage ne dessine pas vraiment la société française comme elle la dessine en Amérique. Ça, c'est des choses, des spécificités propres à chaque nation. Et moi, au fil du temps, quand je raccole ici avec l'Afrique, vous voyez, hein, tout ce que le Seigneur fait est bon. Quand je raccole ici, j'étais partie, ça fait tellement longtemps, avec ce que j'ai vu, moi j'avais besoin, j'aurais voulu parler la question du pouvoir, l'exercice du pouvoir, parce qu'on est trop dans une forme de victime, post-choix, non, non, ça ne donne pas avec la question noire, ça ne cadre pas, et je ne pense pas que la colonisation... Pardon, et là je vais choquer. Voilà, la diversité, voilà. Je ne pense plus, je dois le dire, que la colonisation était une mauvaise chose. Non, je ne le pense plus du tout, du tout, du tout. Et j'aurais voulu parler de ça parce que à ce moment-là, ça nous ramène à la question du pouvoir. À la question du pouvoir, à la question, au regard que nous devons porter désormais sur toutes ces questions de race, toutes ces catégories qui sont désormais désuètes. Nous devons déjà, si vraiment nous rentrons dans l'âge de l'émancipation et donc de la souveraineté, nous devons déjà nous poser la question du pouvoir et de son exercice de façon historique et de façon aussi comment dirais-je, j'ai pas vraiment les mots là parce que je sors de mes perfusions, mais je pense que il n'est plus dans l'ordre du jour que l'Africain soit assis là ou le Noir à attendre quelque chose du blanc. Mais non, tout tant que le blanc s'est battu, enfin que les blancs se sont battus entre eux ou alors sont allés usurper le savoir en Égypte et tout ce que vous voulez, le pouvoir se pose, et en se posant, il détruit. Il détruit, et non seulement il détruit, il construit à sa manière. Il t'appartient à toi qui viens, comme de faire comme la Chine, on va faire court parce que là, ça ouvre un autre sujet, comme l'Asie, de ne pas attendre une quelconque autorisation ou de pleurer matin, midi et soir. Il t'appartient à toi de proposer quelque chose avec la même force que celui qui a le pouvoir. Si vous voulez le pouvoir, vous ne pouvez pas venir et en même temps vous agenouiller ou pleurer tout le temps ou se larmoyer tout le temps. Donc oui, l'histoire des Noirs, si on veut l'enseigner, on n'a pas besoin forcément du blanc pour le faire. Vous voyez, autant de choses. Et ici, ça ouvrirait à tout un pan de choses. Mais encore une fois, je dis, la coopération, oui. Je dis la colonisation, vraiment au vu de ce que l'Afrique a fait de son indépendance, était une bonne chose, et que peut-être même que si les colons revenaient, d'abord ils sont là, moi ça ne me gêne plus, je suis tout à fait d'accord, parce que l'Afrique n'a pas pu proposer. On dira oui, mais elle était, oui, ça je n'accepte pas. Et je prends un cas, deux cas pour terminer. C'est le cas d'ailleurs de, c'est le cas d'abord de la ville de Yaoundé qui manque cruellement d'eau. C'est absolument infect. Or, si quelqu'un comme le président Kadhafi existait, qui a apporté l'eau dans le désert, au Niger, je ne sais plus dans quel pays là-bas, ou au Mali, et tous les grands travaux qui ont été faits dans le temps, Je pense que c'est tout le centre de la capitale de Yaoundé qu'il faudrait casser pour retrouver la rivière, le qu'on appelle le Fundi, qu'on a enfoui. Vous savez, les grands travaux qu'il y a eu en Allemagne, hein, les canaux. Il faut ces grands travaux-là, retrouver le canal, retrouver le sens de l'eau. Parce que ça ici, ce que l'Afrique n'a pas pu proposer à elle-même, pas au monde, c'est l'eau, c'est la gestion de la terre, c'est la gestion de ses propres ressources. Ça, c'est pas toujours la faute du blanc, c'est le pouvoir. Pardon, la voix est raillée, je devais le crier autrement. Et ça, c'est pas la faute à M. Macron, je lui concède. M. Biden, vous voyez bien, quand on a le pouvoir, il va faire la guerre via l'Ukraine, parce que c'est ça que le blanc, j'allais dire le Camerounais, que le blanc impose et que le noir ne veut pas comprendre, que les immigrés ne veulent pas comprendre ou et que les autres font semblant de comprendre ou comprendre à demi-mot. Mais ça, c'est des grands sujets et je termine vraiment parce que je n'ai plus de voix. Si dans la foulée, le cas de Mbappé, vous avez vu, comme par hasard, on a le pape. Pape Ndiaye et Mbappé, qui nous sortent de même jour des cartouches. Mbappé, le Camerounais d'origine, footballeur français de son état, ça fait longtemps qu'il doit signer. On nous annonce qu'il va signer au Madrid, il va signer, il va signer, il va signer, il va signer. Dans la posture, dans l'élégance, dans la forme, il arrive aujourd'hui. Parce que moi, j'ai écrit, je vous dis, je suis un acteur, j'ai écrit Monsieur Mbappé pour mon fils, comme on dit ici en Afrique. Pour l'amour de Dieu, va au Madrid, reste pas en France. La France n'est plus une puissance footballistique de premier plan. Vas-y, quand je dis ça, c'est pas parce qu'elle gagne pas de trophée, c'est toute une écologie autour qui fait que, quand même, le Madrid, Real Madrid, c'est pas. Enfin, c'est pas Paris, pardon. Pas parce que Paris est petit. Et tout de suite, je vous assure, ça s'est fait concomitamment, 2 ou 3 heures après, 2 ou 3 heures à peine, j'ai écrit cela, 2 heures. Ah, ce qu'il hésite à annoncer depuis 6 mois, il balade tout le monde. Oui, finalement, il reste au PSG. Mais alors, pourquoi a-t-on pris tout ce temps, 6 mois, pour dire à quelqu'un, finalement, un mois, dans un mois, c'est l'échéance? Non, finalement, je reste. La Ligue a porté plainte contre le PSG. Oui, parce que ça ne se fait pas. On ne peut pas travailler comme ça dans des façons politiques. On politise tout en France parce que la France instrumentalise toujours cela. Elle joue maintenant pour les législatives, ça va être la carte Mbappé et ça va être la carte Pape Ndiaye. Vous voyez, on joue toujours l'immigration, on l'instrumentalise, on a dû lui proposer de l'argent. Alors, pour qu'elle accepte de l'argent, voilà, le noir, pourquoi il accepte de l'argent en lieu et place de sa carrière, de sa dignité et de son pouvoir, voire de son destin. Pourquoi il accepte cela? Ce n'est pas la faute du blanc d'éduquer des enfants comme cela. Alors, si Pape Ndiaye veut éduquer les Français, parce que là, la question de Mbappé dépasse même la question du black en France, c'est le Français rabougrir sur lui-même, c'est la France qui n'est plus que. Il a perdu son axe, hein, son universalité, son amplitude, son envergure, vous voyez, toute son emphase. Alors, si ça n'existe plus, vous croyez que c'est la mairie qui va venir donner ça aux enfants dans le cadre de l'éducation nationale? Enfin. Je suis tellement déçu de ce petit Mbappé que, quand même, on a ici le président de la FECAFOOT, monsieur, bah, je ne peux pas l'appeler monsieur, ça me plaît pas, ça. En plus, il n'est pas ça comme moi. Eto'o. Non, là, c'est anecdotique. Anecdotique, il y avait une anecdote. Oh là, je n'ai pas de voix ici, il y avait une question d'impôt et tout, les visions 4, télévision raquette. Qui allait monumental qui se passait. Mais Samuel Eto'o, lui, il a fait exactement le contraire. À cet âge-là, sans tout la matière, tous les ors que Mbappé a, il a eu le courage. Mais un courage qui lui venait des tripes. Parce que Le petit Eto'o, c'est un Bassa. Et le Bassa, quand il va chercher loin dans lui, au fond de lui, il peut retrouver l'âme Bassa, qui est quelque chose dont je vous parlerai peut-être une autre fois, mais sachez que le père fondateur de la République du Cameroun, parmi vraiment le père à la tête d'une coalition des pères fondateurs, il y avait un Bassa qui s'appelait Oumiobé. Et si on était resté, voyez, dans cette conquête du pouvoir-là, qui ne demandait pas forcément de tuer le Français, mais c'est le Français qui a voulu se mettre en travers de cela, on n'en serait pas là. On serait comme la Malaisie, au moins. Amis de Radio Silence, avec toute la voix cassée, vous avez écouté Radio Silence, enfin Radio Silence Flash sur le monde, je suis Lise Mbok, je vous dis à bientôt!